Bon, bah, bonjour à tous. Alors du coup, moi, c'est pas tellement, enfin, c'est pas la même forme puisque moi, je suis sociologue, sociologue du rock. J'ai fait ma thèse à Nantes. Du coup, je connais quand même pas mal de monde ici parce que du coup, j'ai fait pas mal de groupes, mais ni des groupes punk ni des groupes hardcore. Parce que mon groupe principal, c'était Crash. C'était plus indie pop, pop noise, power pop entre 92 et 96. D'ailleurs, on a joué avec les Bloody sur le cargo Mekades en 93, mais sinon, voilà, donc moi, ça va être plutôt une tonalité d'un sociologue. Et l'idée, c'était d'apporter un certain nombre de faits sur l'histoire du punk à Nantes. Donc, je voulais plus donc brosser un panorama long terme, vous proposer un certain nombre d'hypothèses. Donc, évidemment, il s'est passé tellement de trucs, donc il y a plein de trucs qui vont zapper, mais en même temps, j'ai essayé de poser plusieurs points. Disons structurel sur la scène punk nantaise, avec une hypothèse, c'est qu'il y a trois moments significatifs. Donc, ce que je vais essayer de vous soumettre là, et l'idée c'était de produire une sorte de texte martyr pour qu'on puisse discuter en réintégrant les différentes générations, sachant qu'évidemment, voilà, moi je disais c'est pareil, Mehdi, je me rappelle la première fois que j'ai parlé avec lui, c'est quand il avait acheté mon album de John Z Army que j'avais ramené des States, et puis c'était pas une bourse au disque à la Beaugeoire en 91. Mais donc voilà, il y a comme ça des anecdotes et tout. Mais bon, alors je vous propose un certain nombre de trucs, puis après voilà, j'espère que je vais pas trop me faire allumer. Donc voilà, donc le matériel utilisé donc est à la fois issu de mon travail d'enquête sur la scène locale nantaise, donc qui a donné lieu à plusieurs publications. Là, j'ai mis sur le côté les trucs que j'ai publiés sur la scène rock nantaise. S'y ajoutent des éléments méthodologiques et théoriques issus de mon travail sur les scènes musicales, et aussi des éléments biographiques et auto-ethnographiques, car j'ai traîné mes guêtres dans les locaux de répé et les concerts de rock nantais plusieurs fois par semaine entre 1990 et 2004, on pourrait dire globalement, des deux côtés de la scène. Et puis il y a aussi un certain nombre de flyers, justement plutôt que j'ai et de documents que j'ai rassemblés à ces différentes époques. Alors en plus, ça m'a embêté parce que pour préparer la com, en fait, j'ai prêté environ entre 150 et 200 disques pour l'expo sur le rock nantais. Charlieu m'avait demandé, donc du coup là, ça c'est les photos quand je prêtais du matos là-bas. Donc du coup, j'avais plein de choses qui me manquaient, notamment la plupart de mes disques de dialectique et tout. Mais bon. Du coup, j'ai du gros. Heureusement, maintenant il y a Internet, donc voilà. Même si c'est pas là, forcément avec ça qu'on est le plus à l'aise. Donc, alors d'abord, je voudrais mon premier point, c'est ce que j'ai appelé éléments socio-démographiques. Et là, je veux dire que quand on étudie une scène locale, souvent c'est intéressant de reprendre un certain nombre d'éléments, je dirais démographiques, parce que ça nous permet de comprendre des choses sur comment évolue une ville. Toutes les grosses villes évoluent, ont chacune leur histoire. Et on pourrait dire que Nantes a une histoire aussi assez spécifique. Donc, une première chose pour comprendre la musique, c'est de dire que la ville de Nantes a énormément évolué. Et c'est notamment, elle s'est no énormément développée dans les 50 dernières années. Par exemple, depuis 82, la ville s'est accrue de 60 000 habitants. Donc, il y a 60 000 habitants de plus aujourd'hui qu'en 82 à Nantes. Et donc, ça fait un taux de croissance de 20%. En 35 ans, et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, du coup, en fin de compte, la ville bouge sur ses bases, on pourrait dire. Et socialement, cette explosion démographique se ressent dans la vie quotidienne, dans les activités, les lieux de sociabilité. Et notamment, la population ouvrière des chantiers navals a été remplacée par des activités tertiaires, des industries créatives et les touristes culturels du quartier de la Création. Et dans le même temps, c'est un autre élément qui peut être intéressant, c'est le nombre d'étudiants. En fait, le nombre d'étudiants a explosé à Nantes. Hein, et il a été multiplié par plus de 2 entre 1975 et 2016. Et la part des étudiants dans la population totale à Nantes est passée de 6,8% à 12,6% en 2016. Donc, si juste un dernier élément sociodémographique, je pourrais pas dire autre chose, mais c'est des éléments qui vous montrent comment la ville s'est transformée. Si on focalise un peu plus sur une période, en fait, il y a même une période où, en fait, avant de recroître. Donc, à partir de, donc, vous voyez, à partir de 90, on pourrait dire qu'il y a même eu un moment où la ville a décliné. Et ça, en fait, c'est lié à la fermeture des chantiers, Et c'est lié, voilà. Et donc, voilà. Il faut rappeler qu'entre 68 et 82, la population nantaise a décru, les chantiers navals stoppant officiellement en 87, mais il y avait déjà plus d'activité avant. Enfin, c'était reporté sur Saint-Nazaire, comme vous savez. Donc, les années 70 et 80 sont une période de morosité économique, mais aussi de conservatisme social à Nantes, qu'on surnomme à l'époque la belle endormie. Mais ça, tous les gens qui sont à Nantes, enfin, sont au courant de cette période. Enfin, tous les gens qui traînaient dans les années 80, enfin, se rappellent, enfin, ont des images un peu d'une ville un peu grise et tout, un peu à la Barbara et tout, et puis sur Nantes, machin. Donc, de 47 à 89, les maires de droite se sont succédés. Si on accepte une incartade du député, de Alain Chénard, qui était aussi député PS de 77 à 83. Et la période 83-89, celle du maire RPR Michel Ciotti. Bon, bah, il y a des gens, enfin, il y a Rachid qui est là, mais pour en parler, ils sont avec son Rock Again Ciotti, mais, donc, la période 83-89, celle du maire RPR Michel Ciotti est restée gravée dans les esprits. Non seulement le maire n'avait pas de vision politique culturelle, mais il semblait porter en particulier une incompréhension et un désintérêt pour les jeunes et le rock, particulièrement. Alors évidemment, au contraire, Jean-Marc Ayrault, à partir de 90, qui reste à maire pendant 4 mandats, construit une partie de sa politique sur la culture, les équipements, et reste attentif au mouvement de la jeunesse. Donc l'idée est de sortir de cette expression de belle endormie, parce que y avait eu même un bouquin qui s'appelait La Belle Éveillée, qui était sorti en 2013. Bien sûr, ceci n'empêchera pas l'équipe de gauche en place de s'opposer à la population sur plusieurs dossiers, notamment sur la politique de la nuit, où on dénonce le fait d'aménager le hangar à bananes pour pouvoir mieux sévir dans le centre-ville, comme l'ont écrit plein de gens, comme le fanzine Le Sauvage ou l'association Culture Barbare, ou encore sur la pertinence de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ça n'a pas pareil, mais ça fait partie aussi de l'histoire nantaise, pour comprendre ce qui se passe à Nantes. Et même si la ville était à gauche, elle a subi des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire d'embourgeoisement, en fait, on pense au quartier des Olivettes, à plein d'autres quartiers, qui a marqué en fait les pratiquants des scènes rock. Donc, et concernant le punk, il est intéressant de noter que les périodes les plus dynamiques du mouvement ne sont pas obligatoirement celles où les autres scènes rock, on pourrait dire, sont les plus dynamiques. Et en particulier parce que le punk se développe aussi dans les marges, mais aussi parce qu'il est présent en périphérie rurale de Nantes. Parce que ça, il faut voir, c'est que le punk à Nantes, c'est aussi le punk dans la région nantaise, dans les interventions qu'il y a eu avec la chanteuse de Stinky, même avec Mehdi et tout ça. On voit qu'il y a Nantes et après, il y a autour de Nantes. Ouais. Alors, un premier point, je voulais partir de médias, en fait, d'exemples de magazines à des périodes différentes. Je voudrais vous en montrer deux ou trois. Voilà. Donc, lorsqu'on prend des numéros de magazines, j'ai pris des numéros de magazines dans lesquels il y avait une focale sur Nantes et qui parlait de rock ou qui parlait de punk, donc avec un grand article. Voilà. Donc on voit que la scène rock est décrite comme moins dynamique que ses voisines, donc ça vous êtes au courant, par rapport à Rennes, même Angers, voire Poitiers, aussi Bordeaux, et on parle pas de véritable scène punk. En fait, un premier papier structurant qu'on retrouve dans l'expo, c'est, il y a la couve du Best, c'est un Best de 1980, où Michel Ambarek, donc qui était journaliste à Best, et pourtant qui lui était sensibilisé punk, était venu à Nantes en 80, et en fait le papier de Best ne mentionne aucunement le terme punk, ni dans les groupes qu'il décrit, ni dans les interviews, quand les groupes sont interviewés, il n'y en a aucun qui utilise le mot punk, donc il ne parle pas de punk. Et un autre numéro, ça, qui est beaucoup plus tard, mais c'est le numéro de Roxanne de 95, qui était titré Tous des punks, donc avec Metallica en couve, bon, qui était vraiment en plus dans une période glauque Metallica à l'époque, mais bon, Nantes, il y a une photo de Trampo, la grande famille de Trampolino, mais c'est déjà en 95. Et donc finalement, là, c'est pareil, on parle pas du tout de punk. Bon, il y a une focale sur 2-3 groupes à l'intérieur, mais voilà. Mais en même temps, bon, je pourrais un peu expliquer pourquoi. Et j'ai pris aussi un dernier exemple, c'était un numéro des Inrecuptibles de 2013, où du coup, il y a Sexy Chouchi en couve, et du coup, il y a le terme punk. Et donc, en fait, c'est le seul moment où le terme punk est utilisé dans le dossier Nantes, où ils disent voilà que c'est un groupe électro-punk barjo, en fait, ils disent qu'à l'intérieur, que c'est un groupe mi-punk, mi-déconneur. Mais bon, en fin de compte, bon, c'est pas lié à la scène punk, c'était l'adjectif punk qui est utilisé, comme vous savez, pour Sexy Sushi, mais j'en reviendrai juste en conclusion. Et donc, si on regarde maintenant, je voudrais juste me focaliser plutôt sur le punk de la première période, On a quelques autres éléments. Alors moi, je parmi d'autres, je pense, il y avait le premier hors-série rock de Télérama. Il est intéressant parce que c'est le seul hors-série où il y a une focale par ville. Donc en fait, il y a au moins une page par grande ville. Ils disent voilà la scène rock de cette ville et tout ça. Et donc là, finalement, il y a c'est 82. Donc il y a un groupe qui est cité comme punk à Nantes. Et c'est Gutter Rats. Les Gutter Rats, ils sont cités dans ce numéro. Donc la première scène punk. Et après, moi du coup, j'ai essayé d'éplucher aussi. Ça, j'avais fait ça pendant ma thèse. J'ai essayé d'éplucher tous les numéros du fanzine New Wave entre le début, donc entre 80 et 86, pour regarder à quel moment ils parlaient des groupes de Nantes. Et là, finalement, j'ai vu que donc ils parlaient aussi de Constat Disorder. Et aussi, à un moment, il y a toute une histoire sur Mickelstein, mais là, il pourra peut-être nous en parler, le gars de Mickelstein, ce soir, enfin, quand on va visiter l'expo. Parce que, en fait, Mickelstein serait en contact avec Mark Zermati, en fait, qui devait les signer, enfin, produire leur album. Donc, bon, je veux pas, enfin, ici, les gens savent qui c'est Mark Zermati, puisque, enfin, il a notamment organisé le premier festival punk de Mont-de-Marsan, puis il avait son label qui s'appelait Skydog, là, qui avait sorti le Metallica, K.O. des Stooges, tout ça. Et donc voilà, même si Mickelstein est pas qualifié de punk dans New Wave, à un moment, voilà, on voit qu'il y a d'autres connexions. Donc ça s'arrête un peu là. Et après, donc maintenant, si on regarde, si on, en fait, l'aspect Léo qu'on peut faire, et notamment aussi ce qu'a fait Laurent Charliot, mais et puis avec les entretiens avec les acteurs du punk nantais, on pourrait dire qu'il y a une espèce de première scène mythique du punk nantais, donc qu'aurait agi plutôt, je dirais, entre 82 et 84, on pourrait dire ça comme ça. Et cette première scène, j'ai mis une photo parce que moi, enfin, en travaillant théoriquement sur les scènes, il y a la notion de ce qu'on pourrait appeler de scène construite. Hop, ouais, j'ai mis comme ça. Donc maintenant, ça parle à tout le monde parce que ça fait même pas un an que ça existe. Mais c'est la peinture qu'il y a sur le mur du Floride, enfin du Nouveau Floride. Et finalement, donc du coup, c'est ça intéressant parce que bon bah il y a le fanzine Gratte-moi le cul, il y a Crash C13, donc qui est souvent considéré, enfin Crash C13, Constat Disorder, puis il y a Gutter Rats qui est dans l'herbe en bas là, qui est tout en bas. Mais alors il y a d'autres trucs qui sont un peu fascinants parce que sur la manière dont l'histoire peut être construite, c'est qu'en fait il y a Cambouis. Et alors finalement Cambouis, enfin c'est quand même le groupe de Philippe Ménard et puis de Albert Chouanet. Ok, ils ont fait leur 45 tours. J'attends qu'elle ait ses 15 ans. À propos d'une fan entre guillemets du groupe. J'attends qu'elle ait ses 15 ans. Mais c'est vrai que quand on l'écoute maintenant, ça sonne un peu punk 76. Mais enfin à l'époque, enfin même vu les gens qu'il y avait dans le groupe, ça a pas tellement de rapport avec cette première scène punk. La manière, enfin, en tout cas, je pose des questions, mais moi, j'étais assez troublé de voir ça comme ça. Mais enfin, voilà, on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire qu'il y a cette première scène 82-84 et qu'il y a tout un aspect mythique là-dessus. Donc là, ça c'est parce que moi j'ai plutôt bossé spécifiquement sur la scène de Montaigu. Donc ça c'est un concert KO Prod 84 à Nantes. Donc là, c'est bon, il y a Constat Disorder, donc là, comme groupe nantais, et puis il y a il y a Caméra Silence, il y a les collabos, et il y a les Néfastes, le groupe de Montaigu, enfin moi sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et alors le truc intéressant, c'est je sais pas utiliser les Mac. Je suis désolé, au secours. Je voudrais quelqu'un qui veut bien me remettre mon PowerPoint. Je voudrais remettre le ouais. Ouais. Hein? Ouais. Ouais, cool. Merci. Pardon. Ouais, et je voudrais notamment, peut-être vous connaissez ça, c'est la compil 1984 The Second qui est sortie sur le label New Wave, où il y a justement un morceau de Constat Disorder. En plus d'avoir un morceau de Néfastes, le groupe de Montaigu, il y a aussi un morceau de Constat Disorder, donc le groupe de Nantes, fin de cette première période. Et alors moi, du coup, l'hypothèse que je voudrais dire, donc après cette période qui est devenue mythique, mais que finalement on a redécouvert, parce que finalement, quand nous on faisait de la zig dans les années 90 ou même dans les années 2000, finalement ce qui s'était passé dans les années 80 ou dans les années 70, on n'en était pas vraiment conscient. Et ça, c'est avec la patrimonialisation du rock qu'il y a souvent dans les scènes locales, qu'on redécouvre des trucs. Ou alors, il y avait aussi, effectivement, là, c'est intéressant, comme il dit, parler de son oncle qui était batteur et tout ça. Après, il y avait des connexions aussi qui étaient liées à la famille ou aux amis, mais sans vraiment qu'on écoute spécifiquement ces groupes. Et donc, ce que je voudrais dire après, c'est que, pour moi, il y a une période, 85-95, je m'y traversais du désert, point d'interrogation, traversée du désert du point de vue disons, d'une scène qui se serait baptisée punk. Mais en même temps, je mets un point d'interrogation parce que, en fin de compte, ce qui est hyper intéressant, c'est quand on interroge des gens, en général, sur il y a eu quoi comme punk après la première scène, ils disent ouais, bah c'est vrai que là, à l'époque, Nantes était plutôt connue, par exemple, pour sa scène hard rock, ou après, ou plutôt sur la fin, Nantes était connue plutôt pour sa scène hardcore. Enfin, les débuts de sa scène hardcore, etc., comme on l'a vu avant. Et j'allais dire, on pourrait dire que il y a plein de groupes qui, à la fois, se revendiquent pas comme punk, mais en même temps, sont quand même liés au punk, parce qu'il y a une scène mods, il y a une scène garage, il y a une scène ska, qui est assez importante, en fait, à la fin des années 80. Et par exemple, j'avais fait un long entretien avec Zay, donc le batteur des Néfastes à Montaigu. Et donc, lui, quand les Néfastes sont arrêtés, en fait, en 86... il a cherché un autre groupe et du coup il a commencé à jouer dans les Spewmen et en fin de compte sur Nantes qui maintenant s'est rabattu sur Montaigu mais qui à l'époque était à Nantes et il y avait plus de Nantais dans le groupe et en fin de compte eux ils disaient bah nous voilà on traînait plutôt avec les Fantômes ou après Banana Trash mais nous en fait on se disait pas punk quoi donc au niveau des groupes donc c'était à la limite il y avait des proximités avec le label Closer Ouais, et même, après, quand j'ai discuté avec Rachid, lui, il me dit, bah, tu pourrais même dire que les Ladies, c'était punk, parce que, ok, c'était considéré hard rock, mais ça ressemblait plus aux New York Dolls, ou alors, il y avait des groupes qui avaient des comportements un peu, genre, asociaux, genre, comme Coda Draconis, etc., même si c'était plus post-punk, mais à l'époque, le terme post-punk, on l'utilisait pas, mais c'était toutes les scènes post-punk qui traînaient au Floride et tout ça. Et en plus, il y avait des concerts de groupes punk. Parce que ça, par exemple, là, ça, c'est le premier, le premier disque autoproduit de Banana Trash. Et par exemple, vous voyez, Banana Trash, ça, c'est à la FJT Beaulieu. C'est un concert avec le Dirty District et Nuclear Device. Donc, même si explicitement, les gens se revendiquent pas punk, il y a quand même plein de choses comme ça. C'est parce qu'ils ont fait aussi une phase de 45 dans Abus Dangereux. Bon, évidemment, ça, c'est le Café Le Ménure, parce que voilà, tout le monde, je pense que tous les gens ici qui sont nés au moins avant 1980, ils ont passé du temps au Ménure, qui était en fait le repère. Qui était un bar, qui était un repère, en fait, des rockers, mais c'était aussi un fort lieu, je dirais, de sociabilité populaire. Et puis, j'avais mis, par exemple, les Spewmen, ça, c'est un concert en 88, il y a les Beru, Ludwig, il y a les Tux, et vous voyez, il y a les Spewmen. Donc, les Spewmen, eux, ils se revendiquent pas en tant que tels comme punk, mais voilà, il y a des concerts, il y a aussi des assos qui font de la diffusion... Il y a par exemple l'asso Wat & Zik qu'on fait jouer Fleet Talk, Sherwood Pogo, Washington Dead Cats, Lera, les Vampas, les Sheriffs, la Souris Déglinguée. Et puis effectivement, il y a la naissance justement d'une proto-scène hardcore comme Mehdi disait. Ça c'est la cartographie des bars que j'ai pris dans un mémoire de DEA de 1987 en sociaux. Évidemment, il y a le Maltais, il y a le Floride, bon, ça, c'est le lieu structurant, mais par exemple, il y a les concerts au Café du Gaz, et puis après, il y a toujours cette idée, voilà, il y a des cafés, ça tourne, il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent et tout, le Violon Dingue est pas encore ouvert à ce moment-là. Et, ça, par exemple, c'est quand on avait joué avec Bloody Muesli, j'ai gardé le flyer au cargo, c'était Bloody qui avait fait l'affiche. Et puis ça, ça, c'est tout ce que racontait Mehdi, c'est plus des concerts de hardcore. Bon. Alors après, donc, si vous voulez, après la première période mythique, on pourrait dire de 82-84, on pourrait dire que finalement, la période qui donne une grosse visibilité au punk à Nantes, c'est la période dialectique. Je vais donner des éléments, mais après, je vais laisser François en donner plus sur Zabriskie. Peut-être, mais simplement, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que quand on parle de scène, c'est aussi la scène perçue, c'est-à-dire c'est comment la scène, elle est vue à l'extérieur. Et en fait, c'est la scène vécue, certes, c'est-à-dire comment les gens les ressentent, mais c'est aussi la scène telle qu'elle est perçue à l'extérieur. Et on pourrait dire que... Dialectique commence en 94, mais j'ai mis 96, parce que en fait, 94, c'est le... Finalement, Steph... Qui sera là cet après-midi, il n'est pas encore là, mais donc il m'a dit que, qu'il serait là cet après-midi, Stéphane Moreau, de Dialectique. Mais finalement, lui, il est en connexion avec, avec Metz, avec Combat Rock, avec Capsule, et donc d'abord il sort un disque de PKRK, et puis après, ben, il sort des disques de pas mal de groupes, de pas mal de groupes, comment dire, français. Hein, les Perfusés, Sourire Kabyle, les plus, il y a même un 45 tours des Salles Majesté, c'est pour un clin d'œil, et voilà, et, ou même des trucs un peu, enfin, il sort aussi du un disque de Paris Violence, et finalement, il rencontre les Zabriskie Point, et du coup, ils sortent leur premier album, Zabriskie Point sort son premier album chez Dialectique en 96, et le groupe va avoir un succès progressif, c'est-à-dire que le succès va monter petit à petit, mais du coup, qui va devenir assez important à la fin du groupe. Et surtout, j'allais dire, enfin, ça c'est mon intuition, mais on pourra en discuter, c'est que finalement, l'influence de Dialectique et spécifiquement des Zabriskie Point, le groupe est hyper célèbre en Vendée, dans les Mauges, dans les Deux-Sèvres, donc finalement un peu dans les milieux, dans les campagnes rurales autour de Nantes. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça c'est bon, ça c'est, j'ai mis un catalogue de Dialectique, et puis ça c'était plutôt voilà, parce que enfin Colin Zabriskie fait partie des groupes qui annoncent en fait sa fin, enfin qui dit on va arrêter dans deux ans, enfin qui s'auto-saborde, et finalement c'est pas si fréquent. Et là j'avais mis deux flyers de concerts de concerts Dialectique, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que finalement à la fin, ils finissent par jouer à l'Olympique, mais même par exemple Jean-Michel Dupas, donc de l'Olympique, enfin qui est même le programmateur, enfin c'est au début ils prenaient pas forcément au sérieux, mais en fait comme la tournée du dernier album, elle a une telle signification pour tellement de gens que finalement lui qui est plutôt dans la, enfin voilà, qui cherche plutôt entre guillemets l'avant-garde, enfin qui est plutôt dans l'institution de, enfin j'allais dire du rock indé, bah tout d'un coup il est obligé de se mettre à, enfin, de constater que finalement Zabriskie Point est super fort. Et j'allais dire, ce qui est aussi intéressant, mais là on pourra en discuter, c'est que au niveau des sous-styles esthétiques proposés par Dialectique, au début, j'allais dire, c'est plus punk 80, quoi. Enfin, on pourrait dire qui pourrait, enfin. Mais finalement, il y a des groupes qui sortent en fait dans plein de sous-styles de punk chez Dialectique, et à la fin vers 99, il y a un sous-courant qui est revendiqué par Stéphane, mais justement influencé pas mal par les Zabriskie Point, qui serait plutôt une sorte de retour au punk 76 ou de punk pop. Enfin, je me rappelle sur la compile What's My Punk, par exemple, il y a Zabriskie qui fait une reprise de Oasis, et du coup ça avait créé un scandale dans le en plus accéléré, hein, mais ça avait créé un scandale en fait dans le milieu punk, parce que ouais, alors est-ce que c'est de la pop, est-ce que c'est du punk et tout ça. Et c'est par exemple quand Stéphane avait signé Clunk et puis Dead End, qui étaient des groupes justement j'allais dire post-grunge, où les mecs commençaient à avoir les cheveux longs alors qu'ils faisaient du punk, donc ça posait pas mal de problèmes. Mais il y a ça, et en même temps il y a un côté super structurant, je pense, dans l'activité à la fois donc locale et en même temps national et international de Dialectique, c'est que il va se mettre à signer des groupes internationaux, et notamment NRA, même le groupe québécois là, que j'oublie le nom, merde, les Vulgaires Machins. Il va faire et en même temps il va aussi filer des coups de main en fait à des gens, par exemple Rue de la Gouaille, ou 7-8 de Poitiers, il va produire des albums de ces groupes-là. Et donc quasiment voilà, même punk à roulette. Ça c'est l'apogée, vous savez. Enfin, c'est en même temps c'est la fin, c'est la session des Libertines en 2003. C'est la fin de Dialectique. Et ouais, au niveau des groupes nantais, il y avait Puppy Brain, qui était un groupe nantais qui a pas fait une grosse carrière, mais bon, c'était des jeunes. Et puis il y avait les Femmes, qui était le groupe monté par un ancien Zabriskie Point après que le groupe se soit terminé. Et puis, bon, ça c'est quand même, c'est important de le dire, c'est que Toxic TV donc a fait deux albums que vous verrez ce soir en concert, donc a fait deux albums chez Dialectique, Et avant, ils avaient fait un album chez une autre asso, donc le, qu'on appelle, enfin, vous voyez en haut, c'est marqué, enfin, le lézard élastique, en fait, qui était une asso qui était sur, enfin, dont les locaux étaient à Trampo, à l'ancien Trampolino, parce que finalement, Trampolino a joué quand même un rôle super structurant via les locaux de Répé, hein, via la cour, enfin, la cafette, tout ça, il y avait un côté convivial, et donc. Par exemple, rue de la Gouaille, ou enfin, il y avait pas mal de groupes. Enfin, c'était plus, j'allais dire, alterno, l'assaut Lézard Élastique, mais du coup, Toxic, on fait leur premier album là, et après, ils sont passés chez, chez Dialectique. Donc voilà, je veux pas m'étendre plus, mais voilà, ça c'était le rue de la Gouaille qui a été coproduit par Dialectique. Ça c'était un dernier moment où il y avait eu Dialectique, c'est qu'on avait fait un débat au blocus DY10, mais ça c'était une étudiante, mais. Qui avait organisé, mais qui avait une asso. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, c'est déjà, enfin, c'est autre chose parce que finalement, quand Dialectique se termine, bah, même quand on interroge les gens, ils disent ouais, bah, le punk maintenant, ils disent un peu ce qu'a dit. C'était super intéressant, je trouve, la chanteuse de Stinky tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, il y a une grande diversité. En fait, il y a une grande diversité de groupes qui s'expriment avec des micro-scènes et tout ça. Et bon, évidemment, il y a eu une continuité de l'école Zabriskie Point avec Justine. Ça, c'est, moi, je vous rappelle, c'est le premier concert que j'ai vu de Justine. C'était avec Ride for Life. Donc là, c'était un groupe de hardcore. Et donc, vous voyez, au niveau des rencontres, des scènes. Et puis, c'était Burning Heads qui était en tête d'affiche. Et en plus, c'était chez Gino, c'est-à-dire c'était sous un chap, à Clisson, près du château. Et donc, le mouvement des chapiteaux, des groupes plutôt punk, d'autres hardcore. Une connexion en fait de groupes de l'Ouest autour de la Loire. Enfin, je trouve que ça représente bien peut-être la dernière période, qui est une période où les scènes sont moins fermées les unes par rapport aux autres. Et en plus, il y a un autre élément aussi qui a été développé ce matin, c'est que ça se passe à Clisson. Et donc le fait, enfin tout ce qui se passe, je veux dire, dans le pays du vignoble, en Vendée, même jusqu'en bas, jusqu'à Luçon, parce que par exemple Concoy, c'est un groupe de Luçon qui a fait un album aussi chez Dialectique. Donc toutes les campagnes autour de Nantes qui alimentaient en fait cette dynamique. Et voilà. Et peut-être pour un mot de conclusion, pour vous dire que un exemple typique de cette diversité, c'est le fait par exemple de lutter contre des rapports de pouvoir qui sont pas forcément des rapports de pouvoir sociaux comme on pouvait le faire au début dans le punk, mais qui peuvent être aussi des rapports de race, des rapports de genre, justement les places des femmes, la dimension végane, etc. Donc il y a des gens qui restent, j'allais dire, à l'ancienne, mais il y en a d'autres qui joignent à ça des nouveaux axes de dénonciation. Avec Notre-Dame de Landes, il y a eu une dynamique hyper forte, justement, par exemple sur la question de l'environnement, et que finalement avec les lieux plus alternatifs, les squats comme le Fouloir, Rude Beach, voire même à moindre mesure le Blockhouse DY10, et puis plein d'autres lieux qui sont pas forcément reconnus, j'allais dire peut-être que si on devait parler du punk aujourd'hui à Nantes, on en parlerait peut-être plutôt comme ça. Donc, voilà, j'ai terminé.
Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment extrêmement frustrant, mais on a le temps pour une question. Donc ça va mettre la pression. Si, j'allais dire, du coup, personne ne va la poser, mais non, pas du tout.
Merci. T'as mis un point d'interrogation, savoir si c'était une traversée du désert. Alors, moi, je pense qu'au moins le début des années 90, ce qui incarne le punk à Nantes, c'est le lézard élastique. Et l'intérêt du lézard, c'est qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ne se réclament pas du tout du punk. Et pourtant, ça joue ensemble. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est-à-dire que tu termines en disant il y a du syncrétisme aujourd'hui, où les Burning peuvent être avec Ride for Life et d'autres groupes, etc. Mais ce syncrétisme-là, tu le retrouvais déjà dans les années 90 avec autour du lézard, avec les Bloody. Et pour l'anecdote, les Bloody, moi j'ai fait partie du collectif qui a ouvert le squat Le Courtois. Et c'est rigolo que Mehdi sorte la photo, parce que il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce concert, entre guillemets, qu'on voulait pas faire, parce qu'il y avait des groupes, pour nous, qui étaient anarchistes, etc., extrêmement douteux. On a été un peu pris au piège par le copain qui a dit « Si, autrement, les groupes viennent, etc. » Tout ça, enfin, bref, c'était assez rigolo. Mais l'ouverture du squat, le Courtois, on l'a fait avec les Bloody Muesli, et on a fait des concerts avec Conflict aussi, où il y avait les Bloody, etc. Donc il y avait un lien, et Schwarzenegger aussi. Il y avait toujours des liens entre la scène politique et la scène punk nantaise. Et ça, c'est assez absent du débat depuis le début, c'est cette question de la place du politique, etc., que nous, en tant qu'activistes politiques et puis musiciens par ailleurs, on revendiquait fortement, et qui a pas été le cas du tout ensuite, quoi. Et puis pour finir, ce que Mehdi a dit, qui est très juste, je pense qu'après la seconde moitié des années 90, si la scène hardcore New York, avec tous les clichés qu'elle peut véhiculer, Mehdi l'a dit, très sectaire, tout, très viriliste, etc., elle chasse pas une scène, c'est-à-dire qu'elle apparaît sur la mort de la scène punk, du lézard, des Bloody, etc., tout ça, quoi. Ils vont occuper un vide avec un dynamisme fort. Voilà. Moi, c'est un peu ma vision, c'est-à-dire que c'est pas une scène qui prend le pas sur l'autre, c'est tout simplement elle remplace une scène qui est morte.
Pardon, juste pour compléter ton intervention, je pense qu'en fait, le lézard élastique, on a connu ça, on était là à peu près en même temps. Mais c'est vrai que, comment dire, je m'inscris dans la continuité plutôt de groupes des années 80, en fait. Le lézard, c'est plus les années 90, c'est en même temps que nous, à peu près 92, par là, je pense, quoi, à peu près, quoi. Donc voilà.
Alors vraiment la dernière, et pour que vous soyez pas frustrés, je vous précise, Jérôme revient cet après-midi, vous a dit qu'il y avait une partie de ses collections qu'il avait prêtées au château, et il sera là au château également pour partager toute sa connaissance de la scène. La dernière question.
C'est juste des précisions. Alors avant les Verts élastiques, c'est l'association Watsensi qui a été très importante avec les concerts à Doulon, avec un personnage qui s'appelle Xavier Desfontaines, et qui est important aussi puisqu'il a été dans la première formation des Big Wooden Sisters, qui était un groupe punk assez important, même si il y a un côté métal et aussi un côté hardcore dans ce groupe, sachant que Watsensi qui a organisé les seuls concerts qu'on avait à l'époque, parce qu'il y avait pas de salle, il y avait pas Stérolux, il y avait pas non plus donc la salle avant l'Olympique, c'est donc la maison de quartier de Doulon qui était un des rares endroits où on pouvait faire des concerts comme la maison de quartier de Rezé. Et donc à ce moment-là, c'était important, Watsensi, que ça a été un moment fort à la fin donc des années 80, donc toute la période Chotti, qui est la période ville morte sur le rock à Nantes. Et aussi pour dire qu'il y a aussi la scène d'avant, qui est la scène métal, qu'on appelait à l'époque la scène hard rock, était aussi très influencée par le mouvement punk. Et notamment, il y a un groupe qui transcende un peu les deux genres, qui s'appelait Trust, qui existe encore maintenant, et qui avait un groupe nantais qui était très Trust, qui s'appelait Destroyer. Il y avait un groupe qui s'appelait Charter. Il y avait des groupes, toute la scène métal, hard rock de l'époque, avait aussi un côté punk. Et notamment, tu citais les Ladies, qui, en fait, est vraiment un groupe qui était dans l'esprit du pré-punk américain, c'est-à-dire les New York Dolls. Et puis sinon, il y a eu un oubli important sur un groupe emblématique qui s'appelle les Stos, avec Goret au chant. Et ça, on est dans un esprit qui est entre les Stooges, Iggy Pop, et également les donc Steve Bators, qui est donc un punk américain qui ensuite est venu en Angleterre faire Lords of the New Church. Et ça, les Stos, c'était important, avec un 45 tours sur Teenage Records, qui était le sous-label de Closer. Et ensuite, un mini-album chez Closer, qui était le label important du Havre, très rock'n'roll punk, et ça, les Stos, c'était un groupe punk, même s'ils se revendiquaient aussi très rock'n'roll. Ouais, c'est ça.